silencio!
¡Haced algo, por favor!
¿Qué pasa?
¡Arthur!
¡Cámara!
¡Hanzai de esta!
Odissea 14702 prima!
Spécial Cannes, première, la mobilisation des femmes de l'écran au tapis rouge. Retour à 12h30 dans le journal de Cannes d'Antoine Guillot sur la montée des marches de samedi. Temps fort du week-end qui se prolonge ce matin avec le lancement des assises de l'égalité cinéma et de la signature d'une charte pour la parité dans le 7e art. Après cette montée des marches chargée de symboles, la projection des Filles du Soleil de la française Eva Husson rencontre avec l'équipe du film à partir de 12h55. Juste avant de retrouver la séquence des critiques, Michel Simon et l'américaine Lisa Neselson du magazine Screen, ce sera autour de 13h15. Mais d'abord, Claire Denis, prix France Culture Cinéma 2018, remis hier à Cannes. La cinéaste qui a offert l'an passé à Juliette Binoche l'un de ses plus beaux rôles dans Un beau soleil intérieur est l'une des deux invitées de la première partie de la Grande Table pour une mini leçon de cinéma, suivie de Un sourire à faire fondre la banquise.
Oui, d'accord, I mean, that is our job.
Rencontre avec Mads Nicholson.
France Culture. La Grande Table, en direct du 71e Festival de Cannes. Olivia Gesbert.
La Grande Table sur la Croisette à écouter tout de suite sur France Culture ou à retrouver plus tard sur franceculture.fr en son, mais également en vidéo. Une partie de nos entretiens a donc été filmée et vous sera présentée si vous le souhaitez les retrouver à l'image. 12h30, on commence par le journal de Cannes d'Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Retour sur l'événement du week-end. C'était samedi à 18h15 sur le tapis rouge. La présidente du jury, Cate Blanchett et Agnès Varda, l'une de nos grandes cinéastes, prennent le micro.
On these steps today. Stand 82 women.
82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui.
Representing the number of female directors who have climbed these stairs since the first edition of the Cannes Film Festival in 1946. In the same period, 1,688 male directors have climbed these very same stairs.
Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde, et pourtant notre industrie dit le contraire. Nous voulons que ça change. Nous sommes actrices, productrices, réalisatrices, scénaristes, directrices de la photographie, agents artistiques, monteuses, distributrices, exploratrices. Nous travaillons toutes dans l'industrie du cinéma. Nous sommes solidaires des femmes dans toutes les industries.
Alors pour les non-anglophones, il faut quand même préciser ce qu'a dit Cate Blanchett. Pourquoi il y avait 82 femmes sur les marches samedi? Eh bien 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du festival en 1946. Et dans le même temps, eh bien il y avait 1688 hommes qui ont pu grimper ces mêmes marches, d'ailleurs même pas 5%. Alors j'ai dit bien 82 et pas 100, comme ça avait été annoncé par le festival en début de semaine dernière. C'est pas,
oui, pour
c'est
un pas 100% une centaine. Féminin.
Voilà, d'accord. Non, c'est un chiffre très symbolique, ces 82 femmes et Cate Blanchett et Agnès Varda ont aussi rappelé qu'en 71 années de festival, le jury a été présidé par 12 femmes seulement et que la prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs et à seulement deux réalisatrices, Jane Campion c'était une Palme d'Or ex aequo, et puis Agnès Varda, mais c'était une Palme d'Or honoraire. Donc ce sont des chiffres tout à fait éloquents, irréfutables, comme disent-elles, et c'est justement l'objectif des collectifs pour la parité qui seront mis au travail depuis quelque temps. Ils sont rassemblés en ce moment même sur une plage à Cannes, la plage du Centre National de la Cinématographie, et ça rassemble 6 pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la France, en la présence de Céline Sciamma et Rebecca Zlotowski.
Parce qu'après les symboles, on attend un peu des actes ou en tout cas des engagements.
Alors voilà, au boulot, ça veut dire faire des statistiques pour montrer qui travaille et combien de personnes travaillent, et puis maintenant voilà, c'est bien de dire on est tout à fait d'accord, il faudrait que ça change. Maintenant, comment faire changer ça? Eh bien, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a prononcé un discours ce matin dans lequel elle a dit qu'elle allait organiser des assises de l'égalité femmes-hommes dans le cinéma. Ça va commencer fin juin, mais elle a déjà donné des actes qui vont sont arrivées. Par exemple, que pour le financement du cinéma, un système de bonus sera mis en place. Ça veut dire qu'on donnera plus d'argent quand les équipes seront exemplaires en matière de parité. Qu'une charte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cinéma va être signée par les professionnels et que pour toucher de l'argent du CNC, il faudra la respecter. Et enfin, que sera créé un fonds de dotation en France pour soutenir de jeunes réalisatrices du monde entier. Donc la France, c'est la grande tradition du cinéma français, va s'engager pour soutenir le cinéma du monde entier. Et puis enfin, va être signé, ça va être dans 3 minutes précisément, sur la plage du CNC, une charte signée par les directeurs des festivals de Cannes, c'est-à-dire ceux de la quinzaine, de la semaine de la critique et du festival de Cannes lui-même, tous des hommes, hein, je vous le dis ça en passant, qui vont s'engager d'une part au lieu de dire on a reçu 1500 films cette année et puis voilà, ils vont dire on a reçu tant de films réalisés par des hommes et tant de films réalisés par des femmes. On verra déjà ce qui est proposé au départ. Et puis enfin, de rendre transparente la liste des membres des comités de sélection et des programmateurs. Et ça, c'est quelque chose qui va intéresser bien au-delà du cas des femmes.
En un mot, la bonne idée du week-end, elle vient de Salma Hayek.
Alors Salma Hayek, elle a eu une très bonne idée. Elle a dit la meilleure manière de faire la parité, eh bien, c'est que les acteurs masculins eux-mêmes demandent à être moins payés. Elle a donné un chiffre très intéressant. Le budget d'un film, c'est 10 millions de dollars. Si la star masculine demande 9,7 millions, comment est-ce que vous voulez arriver à la parité?
Et ça commence ici, dans ce studio. Vous allez me donner la moitié de votre cachet. Merci Antoine Guillaume. Rendez-vous demain pour un prochain journal de Cannes.
France Culture.
Can I read?
La Grande Table, spéciale Cannes.
I will sound the words. And you?
Olivia Gesbert.
You're in this life for good.
Dans une dizaine de minutes, rencontre avec Mads Mikkelsen, l'acteur danois tête d'affiche du film Arctique, présenté en sélection officielle hors compétition. Ou comment survivre dans une nature hostile, un univers de neige et de glace, des images à couper le souffle, un rôle très physique dont il nous parlera autour de midi 20. Mais d'abord, France Culture réunie hier pour la remise de notre prix cinéma des étudiants qui récompense un réalisateur indépendant remis cette année à Bertrand Mandicot pour son film adolescent Les Garçons Sauvages. Et un prix consécration pour Claire Denis, Chocolat, J'ai pas sommeil, Beau travail, White Material, Un beau soleil intérieur. On lui doit parmi les plus beaux films du cinéma français ces dernières années. En moins de 20 ans, elle a développé avec sa complice, la chef opératrice Agnès Godard, un cinéma de l'ailleurs et de la rencontre, où le doute revient comme moteur de la création. En montage de son prochain film, High Life, elle est venue hier spécialement à Cannes recevoir son prix des mains des équipes de France Culture. Claire Denis, première. Claire Denis, bonjour.
Bonjour.
Entrer dans le cinéma par effraction, c'est ce que vous avez dit une fois aujourd'hui. Un prix consécration, alors ça arrive, mais pas que. Est-ce qu'après une dizaine de films, vous vous sentez enfin légitime?
Bizarrement, de moins en moins, parce qu'il y a une autre forme d'angoisse qui s'installe, qui est celle du temps, et qui pose des questions à une personne, homme ou femme qui fait des films, je précise, homme ou femme qui fait des films, c'est-à-dire est-ce que c'est devenu un métier, un besoin, ou est-ce que j'arrive à exprimer quelque chose qui compte? Voilà. Donc c'est ça la question.
Mais ça reste avec des points d'interrogation.
Ouais. Ouais.
Il faudrait quoi pour y apporter des réponses?
Je crois que je suis d'un naturel anxieux. Je pense qu'en effet, étant entrée dans le cinéma sans sûreté, sans ceinture de sécurité, j'aurais toujours ce doute, probablement. Ouais, je pense. Et je vois pas pourquoi ça s'arrangerait en vieillissant, parce que en vieillissant, il y a une forme de... Il y a plein d'autres doutes qui s'ajoutent à un être humain. Voilà, celui de la responsabilité de ce qu'on fait, que peut-être j'avais moins quand j'ai fait mon premier film, qui était plus parti d'un élan, d'un arrachement.
Si on cherche aujourd'hui, qu'on fait ce coup d'œil en arrière, dans le rétroviseur, et qu'on cherche ce qui peut relier tous vos films, ce qui commence à faire œuvre malgré tout, est-ce que vous diriez du coup que c'est le doute? C'est le fil conducteur?
Oui. Enfin, je pense que ça serait un peu masochiste de dire que c'est le doute. Le doute est là, bien sûr, ouais, comme un matériau qui est en moi. Hein. Mais malgré tout, je pense que c'est l'envie d'exprimer quelque chose de l'humanité, enfin d'humain, des hommes, des femmes, à travers des personnages. C'est quand même ça qui reste le plus fort, même avec les doutes. Voilà.
On fait des films pour sortir de soi aussi, pour sortir de son monde intérieur. Et faire des films permet peut-être de construire un autre monde par la caméra. Ce monde que vous avez cherché à construire, est-ce que c'est un monde idéal pour autant ?
Bah, si je repense à mes films, je pense que c'est pas un monde idéal. C'est un monde souvent chaotique ou malheureux, avec des déceptions. Mais c'est un monde que j'ai peut-être idéalisé parce que je l'ai rendu, je sais pas, comme, enfin, plus international, plus métissé, plus comme je voudrais qu'il soit toujours.
À vos yeux, quel est le film qui vous ressemble le plus aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut on revient à Chocolat, qui était en partie autobiographique aussi. Est-ce que White Material est pour vous celui qui vous correspond le plus ? Est-ce qu'il y en a un qui nous parle de vous plus qu'un autre ?
Mais bizarrement, je dirais que tous parlent de moi, sans aucune prétention. Il y avait quelque chose de très... je me suis sentie très moi en faisant Beau Travail, un film sur des légionnaires, parce que j'avais l'impression que moi et Agnès, qui faisait l'image, on était engagés depuis qu'on faisait des films, toutes les deux, pas dans la soldatesque, mais dans un combat physique. Faire des films, c'est très physique, ça demande aussi de savoir regarder les autres, leur corps, leur visage, et que ce compagnonnage avait fait d'Agnès et de moi deux légionnaires peut-être. Donc on s'est retrouvés beaucoup dans ce film-là, toutes les deux.
Mais Beau Soleil intérieur aussi, près de 15 ans, 20 ans après.
Sûr, alors là, c'est sûr, même s'il y a aussi Christine Angot et Juliette Binoche, c'est un film, c'est un portrait à plusieurs facettes de femmes. C'est vrai d'Agnès aussi, comme directrice de la photo. J'ai l'impression quand même qu'on est d'une génération où on a dû s'assumer. Même si je suis plus vieille que Juliette, ça a été nécessaire. Voilà, il y a quelque chose qui ne pouvait pas passer inaperçu. Déjà en pénétrant dans un monde assez masculin quand j'ai commencé à vouloir faire des films, je me suis fait reconnaître femme. Je n'ai pas essayé d'avancer masquée.
J'ai l'impression qu'on a tout gâché. Parce que même s'il devait se passer quelque chose, c'est derrière. Et moi, ce que j'aime, c'est l'avant, tout ce qu'il y a avant. Maintenant, il n'y a plus d'avant.
Peut-être pas. Et peut-être encore un avant. Avant la deuxième fois.
Ah oui. Bah, la première fois, ça s'est fait. Et donc il y aurait un avant qui serait avant la deuxième fois. Ça. Parce que oui, la première fois c'est fait, on est d'accord, ça, on n'y revient plus. Donc il y aurait encore un avant après.
On se voit plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution.
Je suis solidaire.
Vous avez toujours refusé de faire des films de genre, c'est-à-dire des films féminins. Ça vous a été reproché à un
oui.
moment ? Est-ce que ça a dérouté ?
Oh, je sais pas. Écoutez, moi, je vois pas pourquoi femme veut dire qu'on fait des films qui ne parlent que de personnages féminins. Moi, je m'intéresse aux hommes. Je voulais que les films le disent comme je le pense. Et puis, le cinéma, c'est féminin, masculin.
Et questionner le féminin masculin, c'est aussi questionner cette altérité.
Alors, quand j'ai commencé à faire des films, le mot altérité était prononcé, le regard de l'autre et tout ça. Et je ne saisissais pas tout à fait ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, il me semblait que c'était naturel d'être venue au monde, en fait, voilà. Je n'ai pas de posture par rapport à ça, ça s'est fait tout seul.
Vous pensez, Claire Denis, qu'on vit dans un monde où tout est possible aujourd'hui ?
Ah non,
le pire comme le meilleur ?
Ah non. Le pire est plus possible. Ouais. Et le meilleur, il faut essayer de se battre pour. Parce que le pire, il suffit de se pencher ou de se laisser aller un tout petit peu. On le rencontre. Le meilleur, il faut se hausser. Et bien sûr, à Cannes, avec ces films qui viennent du monde entier, on a l'impression qu'on a qu'à tendre les mains et qu'il y a tout ce monde qui est là. Mais j'ai l'impression de vivre une époque quand même différente de ma toute première jeunesse en France. Et puisqu'en ce moment, on parle sans arrêt de mai 68, on voit bien les deux générations qui ont passé depuis ont changé les donnes. Moi, j'ai pensé grandir dans un monde qui allait... petite fille, je pensais que mes parents avaient connu la guerre, enfant ou adolescent, et que moi, j'allais dans un monde qui s'ouvrait, qui s'élargissait. Comme on dit, le cosmos... est en expansion continuelle. Moi, je pensais que le monde était aussi en expansion. Et puis, peut-être c'est parce que je vieillis, mais j'ai l'impression que parfois, je ressens comme des frayeurs ou des épaules qui se voûtent ou un rétrécissement, des peurs que j'avais pas.
Est-ce que le cinéma, pour vous, Claire Denis, nous rehausse ? Peut nous rehausser.
Ah, je crois, oui. Je ne veux pas dire que c'est mieux que les autres formes artistiques. Mais je ne fais pas d'échelle de valeur. Mais je pense qu'il y a dans le cinéma quelque chose qui est accessible très vite, sur une courte durée, et qui permet de pénétrer dans des univers qu'une vie n'aurait pas suffi à faire connaître, des pensées qu'une vie ne suffirait pas à faire connaître. J'étais ici l'année où Happy Chapong a eu la Palme d'Or. Peut-être que sans les films d'Happy Chapong, il y a des tas de choses que j'aurais ignorées de la Thaïlande alors que mon père y est né.
Un mot du film que vous êtes en train de monter, puisque vous avez terminé le tournage. Le cinéma, c'est quand même faire des films aussi dans la contrainte. C'est un défi permanent aussi pour vous, réalisatrice. Et avec ce prochain film, on a le sentiment que vous avez défié une nouvelle part de vous-même. Ça a été compliqué, ce tournage.
Ambitieux, oui. Peut-être osé, et peut-être il fallait être patient, parce qu'on a mis beaucoup de temps à réunir l'argent pour le faire.
Mais ouais. Quel est le défi principal que vous vous êtes adressé à vous-même avec ce film ?
De savoir attendre sans perdre le film. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, je l'ai perdu. Il est parti. Il sera plus là, au rendez-vous. 5 ans, c'est très long. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que l'acteur principal, Robert Pattinson, a attendu. Donc, vis-à-vis de lui, j'étais obligée d'être là.
Et donc, ce film, aujourd'hui, commence à ressembler à ce que vous vouliez ?
Il ressemble pas tout à fait à ce qu'il a été il y a 5 ans. Il est devenu autre. Mais quand il sera fini, j'espère qu'il sera aussi tendre et maléfique que je l'ai souhaité.
Merci mille fois.
Merci.
France Culture.
Abbiamo tanto da fare.
La grande table spéciale Cannes.
Oh, you think that's weird?
Fantasy.
Paola.
Lyohei, lui, t'as une chose à dire.
Todos lo saben.
Olivia Gesbert.
midi 21 sur France Culture Cannes, un festival international. Tandis que la française Claire Denis termine le montage de son High Life au casting international, tourné en anglais à Cologne en Allemagne, le Danois Mads Mikkelsen, lui, est venu présenter le film du Brésilien Jo Pena, qui ne se passe pas du tout, comme on pourrait s'y attendre, sur une plage de Copacabana, mais dans le Grand Nord, tourné en Islande, Arctique, c'est son titre, est une curiosité de la nature et du festival. C'est pour ça qu'Henri Leblanc a choisi de vous en parler.
Présenté hors compétition en séance de minuit, c'est un moment un peu à part sur la croisette, c'est projections de nuit, il y a une ambiance particulière, moins guindée. Et donc là, ambiance assez chaude dans la salle pour un film qui se passe pourtant dans un désert de glace. Le grand Mads Mikkelsen, qui nous a inquiété en méchant, qui pleure des larmes de sang dans Casino Royale ou sur son cheval dans Michael Colas, joue ici le rôle d'un survivant d'une catastrophe aérienne. Il chronomètre chaque action de la journée pour résister aux conditions climatiques. Rencontre sous le soleil de Cannes avec l'acteur danois.
Alors, je pense que c'est l'un des thèmes. Évidemment, la nature a le premier rôle dans le film.
My character is non-important.
Mon personnage n'est pas important. Voilà, la nature se fiche de lui. Mais d'un autre côté, bien sûr, c'est un être humain, voilà, qui est en train d'essayer d'attirer l'attention, c'est lui. Et la grande différence entre survivre et être vivant, c'est quand on rencontre le personnage pour la première fois, il a survécu pendant 9 mois, et d'une certaine personne, c'est pour ça que voilà, et c'est comme un personnage supplémentaire qui rentre dans tout ça.
Pour Arctique, vous avez tourné 19 jours par des vents violents, des températures extrêmes en Islande, vous êtes quasiment seul à l'écran. Comment on travaille un rôle où la nature a autant de place et avec des contraintes aussi fortes ?
Alors c'est ça la chose intéressante en fait, hein, toutes ces contraintes qui sont d'une certaine manière un cadeau. Hein. Évidemment au niveau du travail c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, mais d'un autre côté ça permettait de ne pas avoir à prétendre par le jeu que c'était difficile parce que c'était difficile en soi. Donc d'une certaine manière votre ennemi devient votre ami.
Quand vous étiez seul là-bas avec vos pensées, qu'est-ce que vous avez découvert de vous ?
Alors évidemment, on a tourné 19 jours, donc je n'ai pas passé 9 mois tout seul, hein, comme le personnage. Mais c'était d'une certaine manière, oui, un voyage en solitaire. Donc, évidemment, c'est difficile de comparer cette expérience-là avec quelqu'un qui l'a vécu dans la réalité. Mais être seul, se sentir seul comme ça, c'est quelque chose qui vous permet de faire ressortir certains pouvoirs que vous n'auriez pas la manière de faire ressentir autrement. Ça vous permet de réfléchir comment vous pouvez garder votre santé mentale. Et c'est le personnage qui appelle ses pensées chez vous, d'une certaine manière, c'est quelque chose d'intéressant en tant que phénomène. Mais une fois de plus, hein, c'est, vous avez les conditions, c'est à ça que vous devez survivre. Et puis, vous commencez à aimer les plus petites choses, le poisson que vous pêchez, le petit oiseau que vous chassez. Et donc, c'était une expérience très intéressante.
Tous vos rôles sont marqués par une grande richesse psychologique. Ici, Overgaard est en lutte avec la nature, mais aussi en conflit avec lui-même. On pense aussi à certains autres rôles de votre filmographie, le mystérieux guerrier silencieux, ou même dans Rogue One, votre personnage de Galen Erso, qui est l'inventeur de l'étoile noire, n'est pas vraiment non plus une mauvaise personne. Est-ce que pour vous, le métier d'acteur, c'est avant tout un moyen de sonder l'âme humaine ?
Oui. D'accord. That is our job.
Je pense que c'est notre travail, oui, de sonder l'âme humaine. Hein. On rentre bien sûr dans notre propre âme, on la sonde, mais je préfère dire que d'une certaine manière, voilà, on connaît suffisamment l'âme humaine pour la mettre sur l'écran et raconter des histoires plutôt que d'être notre propre psychiatre. Hein. Et d'une certaine manière, chaque rôle vous permet de découvrir quelque chose de vous-même et aussi sur la nature humaine. Et le rôle de Overcam n'était pas une exception. La chose intéressante, enfin, faire la bonne chose pour cette femme qui paraissait très héroïque, hein, ça avait l'air très égoïste, hein, mais en même temps, c'est la seule autre chose qui respire, qui est humaine dans le film. Donc voilà, c'était une évidence d'arriver à la sauver aussi.
Est-ce que chaque rôle de votre filmographie dessine en creux quelque chose de vous ? Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure de votre filmographie que vous ne connaissiez pas avant ?
It's a very big question. And, to be honest, if I knew the answer, I probably wouldn't tell you.
Grande question, hein, mais si je connaissais la réponse, je vous dirais sans doute, vous la dirais sans doute pas. Mais finalement, je ne suis pas sûr que je connaisse la réponse à cette question. Peut-être que quand j'aurai 98 ans, je me dirai oui, c'était ça. Je crois que c'est un processus en fait. Mais ouais, si je savais, je ne vous dirais pas. Et puis, je crois que de toute façon, moins vous en savez sur moi, plus je peux mentir à l'écran. Et puis voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne sait rien sur le personnage du film. Et c'est pour ça que quand on ne sait rien sur le personnage d'un film, on se met à avoir des fantaisies, à imaginer des choses sur lui.
Alors des fantaisies, on en imagine. On a beaucoup calqué de choses sur votre personne. Vous avez incarné des rôles de méchants qui restent gravés dans la mémoire des spectateurs. Le Chiffre dans James Bond, Tony dans Pusher et Hannibal Lecter dans la série. Quel est le personnage de méchant dans le cinéma ou la littérature que vous aimeriez incarner aujourd'hui ?
Alors, je ne rêve pas à des personnages particuliers. C'est les personnages qu'on m'offre, en fait, qui deviennent mes personnages de rêve. Je pense que tous les personnages que vous venez de mentionner ont des choses en commun. Donc, mais je ne les vois pas de la même manière. Je les vois comme des personnes différentes. Peut-être que le personnage de Pusher m'a montré que c'était la bonne personne à qui on avait donné le mauvais boulot. Et voilà, c'est quelqu'un qui faisait du mieux qu'il pouvait aussi, d'une certaine manière. Voilà, quand on parle de la littérature des méchants, je pense que voilà, c'est Hannibal Lecter qui, pour moi, a été le plus intéressant. Et il y a évidemment une grande différence quand vous jouez Hannibal Lecter sur une série ou alors dans un film de 1h30. Hein. J'ai passé 3 années de ma vie avec Hannibal Lecter, en fait.
Et enfin, Mads Mikkelsen, vous pouvez nous le dire, on est mieux à Cannes ou sur un iceberg ?
C'est une question un peu rude. Est-ce que je peux rester sur un iceberg pendant 19 jours et puis ensuite venir à Cannes pour raconter comment on s'y sent ? C'est franchement ce que je préfère.
Écrivons le scénario.
Exactement.
Tout à fait.
Merci Mads Mikkelsen.
Merci.
J'espère que vous me garderez un petit rôle dans ce futur scénario Mads Mikkelsen avec Henri Leblanc. Alors il est comment en vrai ?
Généreux, assez hypnotisant. Alors je connais pas tous les méchants du cinéma, mais je pense que c'est le plus sympa.
C'est le plus gentil de tous les méchants. Et ce film ?
Alors,
petite
ce film,
pépite dans le festival de place ?
Petite pépite, bouffée d'oxygène, d'air frais, hein, clairement. On voyage beaucoup. Les images de Joe Pena, qui est un YouTuber en fait, hein, sont assez incroyables.
Et le film Arctique sortira en salle en France. On a déjà la date, le 5 décembre. Retour dans la deuxième partie de La Grande Table à une météo plus cannoise. Après le journal d'Antoine Mercier avec la réalisatrice Eva Husson et la comédienne Emmanuelle Berco pour Les Filles du Soleil, suivie de la séquence critique avec notamment Michel Simon. France Culture, il est midi et demi.